Nous poursuivons nos méditations sur les arbres de la Bible en ce mois d'été. Et nous avons déjà fait plusieurs arbres. Nous avons vu le chêne d'Abraham. Nous avons vu l'acacia de Moïse. Nous avons vu la fois passée la grenade de Salomon, le grenadier, dans le Cantique des Cantiques. Et aujourd'hui, c'est plutôt le sol ou le peuplier de l'exilé dans le psaume 137. Alors là, il y a un tableau de Tissot du 19e siècle qui représente ce psaume. Les Israélites exilés à Babylone qui sont sur le bord du fleuve de Babylone. Voilà. Sous une sorte d'arbre qu'on va qualifier tout à l'heure. D'accord. Psaume 137, je vais le lire. Il est court. Il y a une partie qu'on lit, il y a une partie que personne ne lit. Mais nous allons la lire entièrement parce que tout ce qui est dans ce psaume est bon à méditer. Auprès des fleuves de Babylone, là nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion, de Jérusalem. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes et c'est là que nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi et si je ne mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Éternel, souviens-toi des Édomites, des habitants d'Édom, qui au jour du malheur de Jérusalem disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondations !» Fille de Babylone qui va être dévastée, heureux, qui te rend l'appareil, heureux, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Que Seigneur éclaire pour nous sa sainte parole et l'applique à nos cœurs par son Esprit Saint. Amen. Alors voilà un des psaumes les plus connus de la Bible, même s'il n'est pas toujours chanté, récité jusqu'au bout. Un des psaumes les plus connus de la Bible a été chanté par Bob Marley, aussi bien que par le groupe de disco Boneyham, on se rappelle peut-être, On the Rivers of Babylon. C'est tiré de ce psaume et ça fait un grand succès il y a combien, quarantaine d'années. Pourquoi un tel succès? Parce que ce psaume fait part d'une expérience vécue par beaucoup d'hommes et de femmes. Celle de l'exil, celle du déracinement, celle de la tristesse, du malheur, celle de la perte de la terre, celle de la perte de sa famille, des gens aimés. Alors, pour bien comprendre ce psaume, il faut dire 2-3 choses dans l'introduction. Nous sommes en 587 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Nous sommes donc en moins 587, il y a 2600 ans. Pendant des années, les prophètes de Dieu avaient averti le peuple. Il y avait Jérémie, il y avait beaucoup d'autres, qui avait averti le peuple qu'il serait corrigé par Dieu s'il ne se repentait pas et ne se retournait pas vers son Seigneur. Et les prophètes avaient averti que le peuple irait en exil. Mais ils ont refusé d'obéir. Ils ont dit « ça n'arrivera pas. Jamais Dieu ne va permettre que Jérusalem soit détruite. » Et pourtant, c'est arrivé. Les Babyloniens ont envahi Juda. Jérusalem a été conquise par le roi Nebuchadnezzar et l'élite du peuple a été déportée en plusieurs fois à Babylone. Tout est arrivé comme Jérémie et les autres prophètes l'avaient prédit. Tout est arrivé d'après la parole de Dieu. Les Babyloniens ont détruit une partie de la ville, ils ont détruit le temple qui était le beau temple de Salomon pourtant. Et après avoir été témoin de la destruction de leur ville, centre de leur, qui est la ville qui était tout pour eux, la ville de Jérusalem, c'est là où il y avait le temple, où il y avait la parole de Dieu qui était prêchée. après avoir été témoins de la destruction de leur foi, les Israélites ont dû faire une marche forcée de 1500 km au moins pour rejoindre la région de Babylone, où les Babyloniens les ont forcés à s'établir pour du travail forcé. Et à la place des Hébreux, eh bien, les Babyloniens ont installé des colons qui occupaient maintenant les terres, qui occupaient la terre de leurs ancêtres. Alors je crois que nous avons du mal à nous imaginer le choc psychologique énorme qu'a été cette chute. Cette chute de Jérusalem, cet exil, le choc qu'a représenté tout ça pour ces Hébreux. Alors ces Israélites, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Comment ont-ils réagi? Eh bien, c'est tout leur univers, tout leur repère spirituel qui s'effondre d'un coup. C'est l'incompréhension quelque part, dans un premier temps. Et le psaume 137 témoigne de leur vécu et montre comment ils ont réagi. Comment ont réagi ces Israélites? Alors, ils ont réagi de trois façons, au moins, dans ce psaume. La tristesse, le défi, on va dire, ou la foi, et la colère. Alors, c'est exactement cela qu'exprime ce psaume 137. Alors, tout d'abord, la tristesse. La tristesse. Je vais relire les versets, les premiers versets. C'est vraiment la tristesse, qui est mise en évidence dans un premier temps dans ce psaume. « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. » Comment chanterions-nous le cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Alors, c'est vraiment ça. Il y avait deux grands fleuves en Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate. Et ces deux grands fleuves fertilisaient la Babylonie grâce à un réseau de grands canaux qu'on avait établis entre ces fleuves aussi. Et ces grands canaux étaient appelés les fleuves. Donc ici, on peut penser qu'ils sont sur les bords de ces grands canaux de Babylone qui fertilisent le pays. Ils sont là à travailler, un travail forcé. Ils étaient donc au bord de l'eau, sans doute à cause de leur travail. Ils étaient assis, ils parlaient de leur patrie désolée. Et le texte indique qu'ils ne pleuraient pas séparément, ils étaient ensemble. C'est déjà bien. Ils étaient rassemblés en petits groupes pour parler du passé, pour se lamenter, en se souvenant de Sion, en se souvenant de la parole de Dieu. Et on sait bien que l'eau nous pousse à la nostalgie. Le mouvement régulier de l'eau qui coule rend rêveur, rend nostalgique. Le mouvement des arbres, surtout si c'est des sols pleureurs, eh bien, ça met le vague à l'âme, et les pleurs viennent aisément. Alors, de quel arbre s'agit-il? Alors, traditionnellement, on dit que c'est le sol pleureur, Salix babylonica, en latin. Mais on peut penser aussi que c'est le peuplier, c'est le même mot. Le peuplier et le sol sont de la même famille, tous les deux sont très répandus dans le Proche-Orient. Le peuplier, qu'on appelle d'ailleurs Populus euphratica, le peuplier de l'Euphrate. Et donc aujourd'hui, on pense souvent que c'est le peuplier plutôt que le sol. Peu importe. Mais ils étaient nostalgiques. Mais est-ce que c'était que de la nostalgie? Ben oui, bien sûr. Beaucoup plus que de la nostalgie. L'épreuve, c'était des larmes de repentance. L'épreuve avait porté son fruit. Dieu avait permis qu'il soit déporté conformément à sa parole. Il avait fait des promesses aussi dans cette parole en disant qu'un jour, il les ramènerait. Qu'ils continueraient à prendre soin d'eux dans leur exil. Et donc l'épreuve a porté son fruit, les larmes de repentance ont coulé, et ils ont pleuré en pensant à Sion. C'était le symbole des promesses de Dieu, d'un Dieu qui ne change pas, de la fidélité, de l'amour permanent et fidèle du Seigneur à leur égard. Quand on pense à soi, bien sûr, on peut s'apitoyer, mais quand on pense à Dieu qui ne change pas, eh bien, ça amène son amour, nous pousse à la repentance, nous pousse à revenir à Dieu, à nous reconsacrer à lui. Alors, pendre ses harpes au sol de la contrée, hein, ou au peuplier de la contrée, c'était le signe qu'on ne veut plus jouer parce qu'on est dans le deuil, on est triste. Hein. Et là, c'était la tristesse, certainement due à la repentance. Hein. Le renoncement à la musique caractérise en Orient un grand deuil. Hein. Et ils ont même refusé donc, la distraction des harpes. Ils ne voulaient être distraits par rien, hein, pour vraiment se penser au Seigneur, penser à tout ce qu'il était en train de faire et penser à tout le fruit que l'épreuve pouvait porter dans leur vie. L'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour la joie, bien, mais il y a un temps pour les pleurs. Et dans nos vies aussi, quand c'est un temps de repentance que nous vivons, eh bien, ne laissons pas ce temps vite partir tout de suite. Prenons le temps vraiment de nous poser devant Dieu, de nous détourner de notre péché pour nous tourner vers Dieu et porter les fruits de la repentance. Il y a une tristesse, dit Paul en 2 Corinthiens 7, il y a une tristesse selon Dieu, c'est la tristesse de la repentance. Cette tristesse-là, on ne regrette pas de l'avoir vécue. Hein. Et c'est parce qu'elle nous tourne vers Dieu, nous raccroche à Dieu, nous réconcilie avec Dieu. Et cette tristesse-là, si elle vient vraiment de Dieu, elle va nous apporter la joie de la réconciliation, de la communion retrouvée. Elle va apporter des fruits de la repentance, une nouvelle vie, un nouveau chemin, un nouveau parcours avec Dieu. Et donc c'est à ce moment-là que soudainement, leur gardien leur demande de chanter des airs de chez eux. Alors pourquoi? Mais c'était peut-être par curiosité. Les gardiens étaient curieux, étaient attirés par la culture juive, ils étaient attirés par une culture étrangère. Ce serait dans ce cas de la curiosité esthétique, curiosité pour les bonnes choses d'une autre culture. Or, les cantiques d'Israël leur apparaissaient comme un folklore intéressant, on va dire. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient en rien, mais ils aiment le gospel. C'est du folklore intéressant pour eux. Alors que les paroles des gospels sont tellement fortes, tellement empreintes de joie, de foi, de repentance aussi. Mais bon, c'est le rythme qui est, voilà, c'est la musique, c'est le folklore. Bon. Mais il dit, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion, donc des chants joyeux. Chantez-nous des chants joyeux. Il voit ces gens qui pleurent, il leur dit, chantez-nous des chants joyeux. Cette demande fait pour le moins preuve d'une grande insensibilité à l'égard de ce que les Israélites peuvent bien ressentir à ce moment-là, bien sûr. C'est certainement aussi par moquerie, donc, pour troubler les Israélites dans leur foi, pour atteindre leur foi en Dieu par leur blasphème, que ces bourreaux leur demandent de la joie. Et puis encore plus certainement, c'est pour les humilier. Mettons-nous vraiment dans le contexte. C'est une façon pour ces bourreaux de dire non seulement vous allez souffrir des travaux forcés, mais on va vous obliger à faire ces travaux forcés dans la joie. Ça nous rappelle des choses qui se sont passées lors de la Shoah. On sait l'usage qui a été fait de la musique dans les camps d'extermination de la Shoah au XXe siècle. Donc on n'est pas loin de ça non plus. Et la réponse des prisonniers révèle leur attitude de résistance dans l'épreuve. Une résistance qui vient de leur repentance renouvelée, de leur foi renouvelée en Dieu. Ils refusent de chanter le cantique de l'Éternel sur un sol étranger, disent-ils. Ils ne vont pas se laisser aller à utiliser des chants destinés à honorer Dieu, devenir un simple divertissement pour les moqueurs, et pour les persécuteurs, et pour ceux qui veulent les humilier. Alors ça nous permet de faire une première remarque. Il y a des bonnes âmes qui vont dire, « Oh, mais ils auraient dû saisir l'occasion de témoigner par leur joie de la bonté du Seigneur. » Imagine. Non, ils refusent. Pourquoi ? Parce qu'ils refusent de chanter pour divertir leurs vainqueurs. Témoigner, c'est bien témoigner, mais témoigner, c'est d'abord discerner dans la personne qui est en face de nous, discerner quelqu'un qui veut vraiment en savoir plus sur Dieu. C'est répondre alors à son appétit de vie spirituelle, à sa soif de Dieu. Là, quand on a en face de soi quelqu'un qui a vraiment soif de Dieu, quelqu'un qui ressent un manque dans sa vie, alors on a le droit, on a le devoir plutôt, on n'a pas le droit de garder le silence, on a le devoir de parler. La révélation de Dieu n'est pas mon bien exclusif. Hein. Je dois partager ce que j'ai reçu de Dieu par Jésus dans le Saint-Esprit, quels que soient mes états d'âme du moment. Bien. Mais là, ce n'était pas le cas. Hein. C'était des gens qui voulaient se moquer, hein, être divertis, hein, et se moquer de Dieu. Hein. Et donc, les Israélites ont dit non. Hein. Et c'est ce que Jésus dit. Hein. Il y a un temps pour tout, là aussi, mais il y a un temps. Il ne faut pas jeter ses perles au pourceau. Hein. Donc, c'est ce contexte-là. Alors, il y a une autre réaction. C'est la réaction du défi. Jusqu'à là, l'auteur du psaume a utilisé le pluriel, nous. Vous avez remarqué, hein, nous nous souvenions de Sion, etc. Et maintenant, il va changer pour le pronom je. Si je t'oublie, Jérusalem. Vous voyez la différence? Donc, il donne. C'est vraiment un mouvement de foi maintenant. La déclaration est un défi personnel. Un mouvement de foi personnelle en Dieu. Ils sont vaincus, hein, et ils pleurent, leur patrie perdue et ruinée, mais ils gardent la foi, une foi personnelle. Hein, chacun peut dire « je », hein, et ils restent fidèles à la parole de Dieu, hein, chacun pour soi-même. Ce n'est pas la confiance des autres, hein, c'est la confiance que chacun a personnellement en Dieu. « Je », chacun peut dire « je ». Et l'auteur du psaume repousse toute complaisance donc envers le vainqueur et choisit la seule résistance qu'il peut accomplir, la grève des harpes. Il fait la grève des harpes. Donc il y a des moments dans notre vie spirituelle où nous devons manifester que nous ne sommes pas d'accord. Sur notre lieu de travail, dans notre école, dans notre famille, si nous sommes le seul chrétien, nous sommes obligés de vivre avec nos contemporains. Nous sommes obligés de faire comme eux, mais jusqu'à un certain point. Il y a des choses que nous ne ferons pas. Il y a une façon de résister par laquelle nous allons témoigner que nous ne sommes pas d'accord. Bien sûr, ils peuvent nous obliger à faire un certain nombre de choses, mais pas au-delà de certaines limites. Il y a des choses que nous ne ferons pas. Et nous manifestons que nous ne sommes pas d'accord en résistant d'une façon ou d'une autre. Et donc, ça c'est important pour garder notre identité spirituelle, pour vraiment rester nous-mêmes, hein, et avoir une autre occasion plus tard, hein, peut-être de témoigner dans un contexte différent. Alors, ce qui est particulièrement remarquable, c'est que les pleureurs ne s'inquiètent pas de leur avenir. C'est la réaction qu'ils auraient dû avoir dans une situation pareille, hein. Normalement, on aurait dû les entendre se lamenter avec des remarques du style « Oh, qu'allons-nous devenir ? De quoi vivrons-nous demain ? Qu'allons-nous, comment allons-nous nous nourrir ? Comment allons-nous nous vêtir ? Comment allons-nous gagner de l'argent ?» Ici, cela ne les préoccupe pas le moins du monde. La seule chose qui les obsède, hein, leur priorité, hein, c'est la peur d'oublier, de perdre leur mémoire. Et pour cela, ils n'hésitent pas à prononcer toutes sortes de malédictions sur eux-mêmes. Alors ça, c'est un langage un peu dépassé. Hein. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le sujet principal de ma joie. Bon, 5-6. Ça signifie, en langage en français courant, par exemple, que ma main soit paralysée afin que je ne puisse plus jouer de la harpe ou battre du tambour, que je devienne muet et je ne sois plus capable de chanter et de parler. Voilà. Donc ces défis peuvent être vus comme un serment, comme une promesse de demeurer loyal à Dieu et à la foi en Dieu. Loyal à Dieu et à Jérusalem, donc ils resteront toujours au-dessus de toute autre joie, qui resteront leur priorité. Donc c'est un serment, une promesse de demeurer fidèle à Dieu, hein, et de le mettre en priorité, en premier dans notre vie. Voilà ce qu'ils promettent. Hein. Et voilà comment ils s'en sortent. Hein. On les tape, on les force à faire une chose, ils mettent des limites et ils se reconsacrent à Dieu, ils redisent leur foi en Dieu. Hein. Oublier Jérusalem, c'est oublier le Seigneur, l'Éternel, qui s'est révélé au peuple d'Israël. C'est oublier la révélation que Dieu a faite, sa parole. C'est oublier l'alliance de grâce qu'il a faite. C'est oublier Bref, c'est oublier tout ce qui constitue leur identité, leur vie spirituelle. Est-ce qu'il y a de plus dangereux? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dangereux que d'oublier ce que l'on est, notre nouvelle nature en tant que chrétien, notre nouvelle naissance, notre nouvelle vie spirituelle, on dirait aujourd'hui. Et c'est le seul souvenir de Jérusalem qui est le sommet de la priorité de leur joie. Et donc le cœur du psalmiste n'est pas partagé entre Jérusalem et Babylone. Il appartient tout entier à la patrie, à la foi de son peuple. L'amour qui est dû à Jérusalem est un amour exclusif. Le psaume offre un exemple d'attachement indéfectible à Dieu. Un attachement qui ignore les compromissions, qui ignore la peur, qui ne pactise pas avec le mal. Pas de demi-mesure, pas d'hésitation. Alors ça nous rappelle aussi quelque chose, une autre remarque qu'on peut faire. C'est un exemple pour nous les chrétiens, aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes des voyageurs exilés. Nous sommes en exil sur cette terre. C'est l'apôtre Pierre qui le dit, 1 Pierre 2, étrangers et voyageurs dans ce monde. Abstenez-vous de tout ce qui est mauvais. Nous aussi, nous devons résister aux tentations du monde. Nous devons, nous aussi, faire front aux attaques des moqueurs, de toutes sortes de gens qui blasphèment, qui se moquent de notre foi. Nous devons, nous aussi, ne rien vouloir connaître d'autre que l'Évangile, que la grâce, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, mort pour nous, pour nous sauver. Et nous ne devons rien connaître d'autre que Jésus-Christ dans l'attente de notre prochaine rédemption qui sera complète et qui sera dans de nouveaux cieux et de nouvelles terres. En tant que croyants, nous devrions aussi être concernés tout autant par l'Église de Dieu. Et nous devrions pleurer et prendre le deuil lorsque nous voyons l'Église de Dieu persécutée, lorsque nous la voyons meurtrie par toutes sortes de scandales, par toutes sortes de dangers à l'extérieur comme à l'intérieur. Oublier, et lorsque nous voyons le nom de Dieu blasphémé, oublier l'Église, c'est la tentation de tous les jours contre quoi il nous faut sans cesse combattre. Et là aussi, on combat en disant non, je refuse d'aller plus loin. Je veux rester à ce que je suis, je veux progresser, je veux confesser ma foi et je ne veux pas reculer. Et parfois, il faut savoir dire non dans certaines circonstances et se reconsacrer à Dieu. Et le troisième mouvement, c'est la colère. La troisième réaction vécu par les exilés après la tristesse et le défi et la colère. Tout ça sous les sols pleureurs, sous les peupliers. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, les Édomites, qui dans la journée, donc la journée de Jérusalem, c'est le jour, la journée du malheur de Jérusalem, là où Jérusalem a été attaquée, détruite. Ce jour-là, ces gens disaient, rasez, rasez Jérusalem jusqu'à ses fondements. Souviens-toi de ça. Alors, même si les Babyloniens ont conduit le peuple en exil, c'est eux qui ont conduit le peuple en exil, il faut se rappeler que le premier ennemi que l'auteur du psaume demande au Seigneur de corriger, c'est Édom. Donc Édom, ce sont les cousins, on va dire, les cousins germains, les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob. Et donc, les incitations de cette nation, des Édomites, à attaquer, à détruire Jérusalem, sont d'autant plus douloureuses que les Édomites étaient presque de la famille. Non, on a tous vécu ça. On reçoit des coups de l'extérieur. Bon, ça ne nous fait pas trop mal. Mais quand quelqu'un de la famille nous reproche quelque chose ou nous dit quelque chose de moqueur, là, ça nous fait mal au plus profond de nous-mêmes. Mais c'est ce qu'ont vécu les Israélites. Les Édomites, qui étaient presque de la famille, qui étaient les descendants d'Ésaü, le frère de Jacob, eh bien, voilà ce qu'ils ont dit, rasez, rasez. Leurs actions étaient considérées comme des trahisons au sein d'une même famille. Et ça fait encore plus mal. Une famille qui s'est souvent querellée, mais qui aurait dû rester malgré tout unie contre ceux du dehors. Mais même là, ce n'était pas possible. Et le prophète Abdias, un tout petit prophète de quelques versets, a été choqué aussi par le comportement des Édomites. Il a des paroles très fortes en Abdias versets 10 à 14, Abdias 1, 10 à 14. Alors ce magnifique psaume se termine par un terrible appel à la vengeance contre Babylone. Fille de Babylone, la dévastée, toi qui seras dévastée, ça veut dire, heureux qui te rendra la pareille, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Vous vous demandez comment je vais m'en sortir. Alors, Babylone, c'est toujours la première chose qu'on peut dire, c'est que Babylone était une superpuissance. Elle était inattaquable, on pensait. Et ici, plusieurs prophètes, comme Jérémie au chapitre 49, comme Ézéchiel au chapitre 15, comme d'autres petits prophètes, avaient annoncé, et ici le psaume 137, avait annoncé que Dieu punirait cette Babylone pour sa brutalité, pour son manque d'humanité. Et Babylone a été effectivement détruite, elle est tombée entre les mains du roi Cyrus de Perse. Et on voit ça en Daniel 5. Voilà, tu as été pesé et tu as été trouvé trop léger, tu seras puni. Et donc c'est ce qui est arrivé. En une nuit, Babylone qui était imprenable a été prise par les Perses. Et cette grande puissance mondiale est tombée tout d'un coup. Et ça fait frémir le monde de l'époque. Comment cela peut-il se faire? Alors c'était la main de Dieu, le bras de Dieu, quand Dieu l'a décidé. Alors nous pouvons remarquer qu'à aucun moment, alors ces paroles nous choquent bien sûr, ces paroles de vindicatives nous choquent, mais nous pouvons remarquer qu'à aucun moment, les Israélites ne pensent à se venger eux-mêmes. Et on peut y voir aussi le respect du commandement de Dieu, de ne pas chercher à se venger. Lévitique 19, 18, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Ils ne se vengent pas eux-mêmes, ils délèguent leur vengeance, on va dire, le jugement à Dieu. Et de même que les exilés s'invitent à ne pas oublier Dieu et à mettre Dieu en priorité, ils invitent Dieu à ne pas oublier de corriger les peuples responsables de leur situation. Dieu ne tardera pas d'ailleurs à faire justice. Non pas à cause de leur prière, non pas à cause de leur justice, non. Mais à cause de sa grâce, à cause de ses promesses, parce que son honneur a été bafoué par les Édomites et par les Babyloniens. De plus, Dieu est fidèle, on l'a dit, à ses promesses. Il avait promis de faire ainsi. Et donc, il accomplira les prophéties pour montrer qui il est et sa fidélité. Et c'est ce qui arrivera, on l'a dit, 70 ans plus tard, avec l'arrivée des Perses de Cyrus pour conquérir Babylone. Alors, que dit le Nouveau Testament ? Là-dessus, le Nouveau Testament dit qu'en fin de compte, un jour, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Nous croyons au jugement dernier, où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Mais le Nouveau Testament affirme aussi que la colère de Dieu est réservée non pas à un peuple comme ça, les Babyloniens, les Édomites. Non, non, il est réservé à ceux dont le cœur est endurci. Il est toujours réservé à des individus. Et ce n'est pas un peuple qui sera un jour jugé comme ça. C'est chaque individu qui sera jugé s'il a laissé son cœur s'endurcir et s'il ne s'est pas repenti. Donc dans la Bible, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de jugement sur tout un peuple ou sur un individu. Il y a toujours, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, la possibilité de se repentir. Et donc il faut toujours rappeler ça. Alors comme chrétien, nous pouvons nous identifier aussi avec les réactions contenues dans la première partie de ce psaume. Et donc, en tant que chrétien, il est bon de venir à Dieu avec ce que nous sommes, avec nos cris, avec nos plaintes, avec nos mots exagérés, nos mots mal choisis qui vont des fois trop loin, qui sont excessifs. C'est bon d'exprimer tout ça, mais de l'exprimer devant Dieu. En tant que chrétien, il est bon de savoir que Dieu regarde derrière les mots. Heureusement, il a regardé derrière les mots de Job, qui avait dit des belles choses, mais qui avait dit aussi des choses qui allaient très très loin, en regrettant le jour de sa naissance, etc. Et c'est pareil, Jérémie, maudit soit le jour de ma naissance. Et Élie, Seigneur, enlève ma vie, etc. Tous ces gens qui souffraient ont dit des choses terribles. Ils ont parlé trop fortement et ils ont été trop loin. Et Dieu a su regarder derrière les mots. Il sait distiller l'essentiel des prières que nous faisons. Hein. Il en prend l'essentiel, hein, le suc. Hein. Et c'est ça qu'il regarde. Hein. Il regarde notre amour, notre cri, notre foi malgré tout. Hein. Et donc, nous aussi, hein, nous pouvons tenir compte de ça. Et ce psaume est dans la Bible pour nous rappeler que Dieu écoute ce genre de prière. Hein, et nous pouvons tout dire à Dieu si nous le disons à Dieu. Et ce psaume, c'est bon de le lire jusqu'au bout, parce qu'à la fin, bien sûr, c'est un peu... Il y a le mal qui est exposé. Hein, mais on ne doit jamais oublier dans la prière aussi la réalité de la cruauté, la réalité du mal. Hein. On n'est pas encore au ciel. Dans ce monde, le mal existe. Hein. Le mal existe, il faut en tenir compte. Le mal fait encore souffrir énormément. On ne peut pas aider les gens si on ne croit pas que le mal existe. Hein. On croit au mal, nous. Hein. Il a fallu la croix du Christ. Il a fallu un grand sauveur pour réaliser notre salut. Hein. Du mal. Hein. S'il n'y a pas le mal, il n'y a pas besoin de sauveur. Hein. Le mal existe dans toute sa laideur, dans toute sa cruauté, dans toute sa profondeur. Et c'est contre lui qu'il faut lutter, et c'est dans des situations de cruauté qu'il faut apporter à Dieu. Mais alors, nous pouvons nous identifier avec certaines réactions contenues dans la première partie de ce psaume. Mais nous ne devrions jamais, en tant que chrétiens, chercher à nous venger personnellement de ceux qui nous persécutent et qui nous ridiculisent. Non. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Mais nous ne devrions pas le faire, ça c'est certain. Nous devrions suivre l'exemple des croyants persécutés aujourd'hui pour avoir fait d'autres choix que la société dans laquelle ils vivent et qui ne demandent pas à Dieu de détruire leurs ennemis. Au contraire, ils prient pour eux. Et leur attitude est celle que le Christ a enseignée dans les évangiles. Qu'est-ce que le Christ a enseigné dans les évangiles, hein? Eh bien, il a enseigné à prier pour ses ennemis, à rechercher la réconciliation. Matthieu 5, 44. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et Jésus sur la croix, en Luc 23, 34, a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font et c'est pourtant à ce moment-là qu'ils se partageaient ces événements en tirant au sort. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce psaume. Alors, encore un petit résumé pour conclure et une application. Donc, tristesse, défi ou consécration, colère, voilà les réactions qu'ont eues les Israélites en exil à Babylone. Et ils ont vécu tout ça sous les peupliers, sous les saules. Bien. Ces réactions ont nourri aussi un renouvellement de leur repentance, de leur foi, de leur fermeté, hein, de leur volonté de rentrer un jour chez eux à Jérusalem. Mais nous alors, qu'avons-nous à voir avec cette histoire? Eh bien peut-être pour que nous aussi, en tant que chrétiens, nous nous sentons parfois comme les Hébreux en exil, on l'a dit, à Babylone. Il nous arrive de réagir par tristesse, hein, par colère. Tristesse et colère contre les personnes qui nous tournent en ridicule, qui se moquent à cause de nous, et qui se moquent de nous à cause du Christ. Mais comme les Israélites en exil, nous sommes appelés à transformer ces réactions en force, hein, pour résister, pour tenir bon. Et nous bénéficions dans ce combat de beaucoup plus que ce qu'avaient les Israélites de l'époque. Nous avons la Bible, nous, hein, toute la Bible. Nous avons Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui est ressuscité, qui règne déjà. Hein. Et nous avons plus que la Jérusalem terrestre comme horizon. Nous avons la Jérusalem céleste, hein. Le royaume de Dieu qui est devant nous. Hein. Et dans ce périple, la Bible est plus que jamais notre boussole. Elle nous invite à tenir le cap, à tenir bon contre vent et marée, à progresser, à tenir debout, hein. Et en restant ferme, hein, tout en bénissant nos persécuteurs, hein, ceux qui nous font du mal. Hein. Alors, là, c'est vrai que Dieu peut nous rendre capables, hein, grâce à sa puissance de salut, il peut nous rendre capables de guérison. Il peut guérir ce qu'il y a dans notre cœur et qui n'est pas toujours très beau. Il peut guérir nos colères, il peut guérir nos tristesses. Et quand il est dit dans le dernier verset, « Éternel, éclate la tête des enfants de mes ennemis sur le rocher », on pourrait l'appliquer symboliquement à beaucoup de choses dans nos vies. L'ennemi, notre ennemi aujourd'hui, ce n'est pas les Babyloniens, ce n'est pas tel ou tel peuple. Notre ennemi, c'est tout ce qui nous éloigne de l'amour de Dieu. Tout ce qui nous exile de l'amour de Dieu. Tout ce qui nous sépare de l'amour de Dieu. L'ennemi peut être notre tristesse, notre colère, notre détresse. L'ennemi, ça peut être des blessures anciennes, des remords. Dieu peut nous ramener de cet exil et parfois c'est un vrai miracle. Mais parfois le mal ancien continue à ressurgir de temps en temps. Et même parfois il a tendance à nous refermer sur nous-mêmes. C'est le cas du mal que nous avons fait ou du mal qu'on nous a fait. Et cette prière peut même si elle paraît horrible, elle peut nous aider et elle peut être juste. Éternel, éclate la tête des enfants de mes ennemis sur le rocher. Dans la Bible, Saint Jérôme, un père de l'Église, a dit « Celui-là est bienheureux qui, à peine né les mauvaises pensées, je l'ai marqué là, celui-là est bienheureux qui, à peine né les mauvaises pensées, les tue et les écrase contre le rocher. Et ce rocher, c'est le Christ. » En 1 Corinthiens 10, il dit que le rocher, c'est le Christ. Dans la Bible, le rocher, c'est Dieu lui-même et la stabilité de son amour. Et c'est contre ce roc que l'on peut briser tous les germes du mal qui nous rongent et qui rongent notre monde. L'avantage de ce langage imagé est qu'il peut s'adapter à chacune de nos situations. Nous avons tous quelque chose qui doit être éclaté contre le rocher qui est le Christ. Alors que Dieu nous sauve de chacun de nos esclavages, chacun de nos emprisonnements, qu'il vienne aussi briser les chaînes de la fatalité, où le mal engendre un autre mal, où la vengeance engendre une autre vengeance, où l'accident engendre un autre accident, etc. Que le Seigneur vienne briser tous ces cercles. Et puis on peut aussi dire que la Jérusalem qui nous intéresse, c'est la Jérusalem céleste, comme on l'a dit. L'espérance de ceux qui attendent le monde meilleur que Jésus nous prépare. L'amour pour Jérusalem s'est beaucoup refroidi dans le cœur, et on pourrait dire l'amour de l'Église s'est beaucoup refroidi dans le cœur de ceux qui affirment attendre le retour du Seigneur. Et notre prière face à ce psaume, c'est comme la prière d'Israélite. Ô Seigneur, je t'en prie, si tu voulais, Seigneur, réchauffer cet amour en nous et que tu sois à nouveau notre priorité dans l'Église. Amen. Et je vais lire avec vous cette prière aussi qui date d'un certain temps et qui est une prière qu'on peut faire après ce psaume. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui voyage ici-bas. Et tandis que nous sommes assis en larmes sur les bords des cours d'eau de Babylone, du monde, fais que nous ne soyons pas entraînés par les flots impétueux du monde qui passe, mais que délivrés de la contagion de la vie présente, de la séduction de ce monde, nous élevions notre intention vers la Jérusalem d'en haut, et que nous n'en perdions jamais le souvenir. Amen.